Moi, je suis un peu du bushman au Kassai oriental. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Et merci également de participer à cet échange citoyen. Selon les conseillers spéciaux du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, la RDC enregistre chaque année une fraude fiscale et des détournements évalués à 15 milliards de dollars américains. Pour mettre fin à cette situation, le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, il faudrait arrêter les auteurs de ces détournements et les déférer devant la justice. Que pensez-vous? Nous en débattons aujourd'hui. Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. À noter que toute l'équipe est là pour vous servir. Jean-Noël Mokondo est à la technique, Julie Feta Bongonda et Piero Ilameji réalisent ce programme coordonné présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Leonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons en ligne pour modérer cet échange Maître Zico Nguzi, qui est chargé donc des programmes à la LICOCO, entendez par là, la Ligue Congolaise de lutte contre la corruption. Maître Zico, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R. Nguembo.
Voilà, donc très des jeux que nous inspire, que peut nous inspirer d'ailleurs ce point du conseiller spécial du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.
En fait, au niveau de la LICOCO, nous estimons que le conseil spécial n'a fait que relater la triste réalité que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo en rapport avec cette question liée à la corruption. Vous savez qu'aujourd'hui, la corruption est très répandue, on considère qu'elle est pratiquement généralisée. Et le conseil spécial n'a fait que relever ce qui est vécu par la population comme effet ou conséquence de la corruption.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est une démarche amorcée par lui. Et lorsque nous avons réalisé une émission après juste sa nomination, les auditeurs, disons, redoutaient quand même la démarche à entreprendre pour que finalement les résultats soient à celui escompté. Alors aujourd'hui, par rapport au regard de la LICOCO, quelles sont les chances qu'on peut accorder à la démarche du conseiller du chef de l'État?
En fait, au niveau de la LICOCO, déjà nous avions accueilli favorablement la création d'abord de ce poste de conseiller spécial et la désignation du professeur Luzolo comme conseiller spécial. Et nous estimons qu'il a un grand travail à faire parce que le champ de la lutte contre la corruption est très vaste. Mais aussi nous estimons que nous ne devons pas lui laisser à lui seul tout le travail parce que la lutte contre la corruption dans notre pays va être l'affaire de tout le monde, de tout le Congolais. Et comme il a eu à le relever dans son intervention, lui, peut-être il pourra instruire les dossiers, mais ce n'est pas lui qui va sanctionner. Il y a le magistrat qui doit intervenir par la suite. Donc, il y a une équipe qui doit être mise en place. Chacun doit s'impliquer, chacun ce qui les concerne. De façon à ce que la lutte soit vraiment efficace.
Alors, la RDC comptait parmi le pays à un taux d'impunité très élevé. Est-ce que cela ne peut-elle pas constituer une contrainte pour que finalement cette lutte soit vraiment effective?
En fait, j'estime que l'impunité est la contrainte majeure de la lutte contre la corruption en RDC parce que ceux qui sont ou qui s'impliquent dans la corruption comme acteurs, corrupteurs ou ceux qui sont corrompus, du moment où ils ne sont pas poursuivis, je pense, à ce niveau-là, on ne peut pas parler d'une lutte effective. On n'y aura lutte que lorsque ceux qui seront pris la main dans le sac, en ce qui concerne la corruption, seront effectivement sanctionnés, traduits en justice et sanctionnés. Et je pense, parallèlement à la lutte contre la corruption, il y a une lutte contre l'impunité qui doit être menée sérieusement.
Est-ce que ce n'est pas une façon de prêcher dans les déserts?
Non, j'estime que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Comme je l'ai dit, chacun de nous doit s'impliquer. Lutter contre l'impunité, ce n'est pas le professeur Luzolo qui le fera dans le cadre de ses charges en tant que conseiller spécial. Ce sont les magistrats qui devront intervenir par la suite. Et je pense que tout le monde doit s'impliquer, le magistrat surtout, pour que la lutte contre la corruption et l'impunité soit effective.
Ben, en droit, il est clairement dit que le procureur peut même se saisir d'un simple soupçon. Mais là, il s'agit d'une alerte, d'un cri d'alarme pour dire, voilà, il y a un danger. Est-ce que il ne revient pas maintenant au procureur de passer en action?
J'estime que le procureur doit intervenir et je pense qu'il ne faudrait pas attendre une intervention du conseil spécial pour que le procureur intervienne. Comme vous avez à le dire, la loi lui donne cette
prérogative
de pouvoir se saisir, même des simples rumeurs qui sont véhiculées, des simples allégations qui sont lancées. J'estime que le procureur doit intervenir et je pense que les champs est vaste. Aujourd'hui, quand vous considérez le nombre de constructions des bâtiments qui sont en train de pousser ici dans la ville de Kinshasa, il y a de quoi à se demander où est-ce que tous ces gens trouvent cet argent. Bon, je n'ai rien contre ceux qui bâtissent. Ils doivent quand même se justifier sur l'origine notamment de l'argent qu'ils de l'argent de toutes ces constructions.
Mais 15 milliards de dollars américains qui constituent la somme allouée dans le cadre de la fraude fiscale, c'est quand même énorme et manque à gagner pour l'État aujourd'hui qui pourrait peut-être servir pour revoir à la hausse le budget du gouvernement central.
Oui, vous avez raison de le soulever. Aujourd'hui, notre budget est évalué aux alentours de 9 milliards pour l'année 2015. Mais je me dis, si on pouvait ne serait-ce que commencer à récupérer la moitié de tout ce qui s'évade, on serait aux alentours de 16-17 milliards. Ce serait déjà quelque chose de considérable et la population pourrait ressentir les retombées, notamment de cette embellie sur le plan économique auquel nous sommes en train d'assister. Je pense que c'est très important que cette liste soit menée de façon à ce que l'argent soit canalisé vers le caisse de l'État et que cela, en fin de compte, profite à la population dans son ensemble.
081-890-6315 pour votre intervention en direct. Nous vous rappelons les sujets du jour selon les conseillers spéciaux du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Luzolo Bambi, la RDC, enregistre chaque année une fraude fiscale et des détournements évalués à 15 milliards de dollars américains. Alors pour mettre fin à cette situation, les conseillers proposent qu'il faut d'abord arrêter les auteurs de ces détournements et les déférer devant la justice. Alors, que pensez-vous?
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Mingen.
Voilà, nous avons le premier auditeur qui est en ligne. Avec lui, nous allons ouvrir ce standard. Simon, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur JR, et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent partout dans le monde à ce moment. C'est Simon Tsiloulou de Primasavi. Je suis de la nouvelle société publique. Je suis très intéressé par ces sujets. Mais nous pensons que les problèmes de la corruption en République démocratique du Congo, c'est devenu une sorte de victime. Mais est-ce que pour résoudre ces problèmes, il faut les saisir en aval ou en amont? C'est la question qu'il faut plus se demander. Parce que lorsque nous allons commencer à résoudre ces problèmes en aval, les prisons seront toujours pleines parce que nous n'avons pas tenu compte des causes. Est-ce que la République démocratique du Congo dispose-t-il d'un cadre? Quel est l'état des lieux actuel des cadres congolais pour éviter la corruption. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que la République démocratique du Congo a-t-elle mis en place un cadre qui ne prédispose pas les gens à la corruption? Parce que, monsieur le journaliste, je vous l'ai dit, nous sommes dans les mains de l'enseignement. Mais il est difficile. Nous sensibilisons les enseignants et les enfants et les parents même. Mais sous les mômes vitales, comment vous pouvez exiger des vertus à une personne? Nous prenons l'administration publique. Regardez ce que l'État congolais donne à un agent qui gère l'État. Est-ce que ce que l'État lui donne pouvait-il lui suffire pour ne vivre que de ça du premier au 30? Donc, si nous analysons ce problème, nous trouverons que l'État congolais, dans sa fonctionnalité, on dirait prédispose aussi ses propres agents d'être corruptibles. Parce que si vous allez dans les établissements, vous verrez même les parents vivre les maisons cachées des enseignants pour corrompre l'enfant qui est déjà en première année. C'est déjà qu'on corrompt les gens pour passer, pour réussir. Qu'est-ce que vous voulez que cet enfant puisse devenir dans la société? Donc, le fruit actuel de la corruption, c'était l'erreur qu'on a commis depuis la République passée, qu'on n'arrivait pas à disponibiliser à la République démocratique du Congo un cadre qui ne prédisposerait pas les agents de l'État ou fonctionnaires, et même dans les entreprises privées, à la corruption. Vous prenez par exemple un policier ou un militaire. Vous voyez les soldes qu'ils ont. C'est vrai que le pays est séculé. Regardez leurs soldes. Et au-dessus de ces paix-là qu'on leur donne, 60 000, 70 000, 80 000, au-dessus de ce qu'on lui donne une arme et des balles, à la fin du mois, voilà comment le cadre, il faut réfléchir en termes global d'abord, pour voir comment on peut éviter. Je vous dis, la fonction publique, même les enseignants, font partie d'une fonction épuisante, souffrante, absorbante et fatigante. Il faut quand même une rémunération à la hauteur du travail attendu. Ceci les remettrait à l'abri de certains comportements répréhensifs. Mais lorsque vous donnez à un enseignant 80 000 francs, vous lui demandez...
Oui, Simon, si vous pouvez peut-être revenir un peu au sujet, parce que nous avons parlé des 15 milliards de dollars américains qui échappent au gouvernement aujourd'hui dans les cadres de la fraude fiscale et des détournements. Alors, le conseiller spécial du chef de l'État propose, pour mettre fin à cette situation de fraude fiscale, nous parlons bien, il faudrait arrêter les auteurs de ces détournements et les déférer devant la justice. Que pensez-vous?
Il ne faut pas les épargner. Ils doivent être arrêtés, tous ces gens-là qui font souffrir la République. Parce que c'est à cause de que la République n'arrive pas à mettre en place un cadre qui ne prédisposerait pas les gens à la corruption. Ils doivent être arrêtés.
Alors, quels sont les moyens? Quels sont les moyens efficaces?
Que la solution soit trouvée à l'aval comme on le fait, mais réfléchir aussi à
en amont.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceci n'arrive pas?
Alors qu'est-ce que vous proposez, Simon? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Quels sont les mécanismes les plus efficaces pour qu'on arrive réellement au résultat?
Voilà, pour qu'on arrive au résultat, il faut commencer à sanctionner ceux qui ont mis l'armée dans les salles. De deux, il faut chercher à mettre en place un cadre congolais qui pouvait faire en sorte que qu'il sensibilise, tel que je vois l'ICOCO et beaucoup d'autres structures de la société civile, une forte sensibilisation, et puis mettre les agents de l'État qui doivent travailler pour la cause de l'argent à l'abri de toutes les tentatives de corruption, mettre les magistrats qui sanctionnent à l'abri, mettre à leur disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'abri des tentatives de corruption. Parce que lorsque ceux qui doivent arrêter sont tentés, ça risque d'être dangereux. C'est pourquoi nous proposons, à l'instant qu'on arrête ces gens-là, il faut qu'on cherche comment éviter aussi la corruption.
Mais encore faut-il qu'on les identifie, parce que s'ils demeurent encore dans les nombres de personnes non autrement identifiées, et ce sera difficile de les arrêter, Simon.
Oui, pour les identifier, papa, c'est facile. Nous savons ce que gagne un fonctionnaire de l'État. Nous connaissons ça. Il faut un recensement ou bien une campagne d'enregistrement des biens matériels
de tout Congolais ou un agent de l'État, même privé. Il faut commencer par là. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement au niveau des députés et au niveau des ministres.
Les ministres. Donc il faudrait que les contrôles concernent tout citoyen, congolais.
Tout citoyen.
Merci beaucoup, Simon. Merci, merci beaucoup Simon d'avoir appelé de Matadi. On rentre à Kinshasa avec Serge qui était avec nous dans la ville province. Serge, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour JR, bonjour les auditeurs de Radio Capi.
Voilà, donc je crois que quelque part on sent il y a quand même une certaine peur et puis il y a ces doutes de voir que l'action qui pouvait être menée par les conseillers spéciaux du chef de l'État après avoir fait ces points ne sera pas vraiment efficace par rapport à certains nos interventions, mais 15 milliards de dollars américains, c'est quand même énorme, et un manque à gagner est terrible pour le gouvernement congolais. Alors, vous pensez que ce sera possible vraiment d'arrêter les auteurs de ces détournements et les déférer devant la justice, Serge?
En fait, j'ai la crainte de la population justifiée parce qu'il y a des antécédents sur des dossiers de fraude à l'RDC. Il y a des déclarations dont les sanctions ne suivent toujours pas. Et la population a suivi beaucoup de cas de fraude. On amène à la télé devant la presse. Et juste après, il n'y a rien, il n'y a pas de sanctions. Je tiens tout de même à saluer la position du conseiller spécial qui rejoint les états-majors, je pense, de la justice qui vont se tenir d'ici là. Si ça paye un tout petit peu arrêter cette situation, tant mieux. Mais je crois que le conseiller spécial, après avoir fait la déclaration à tous les éléments, avant de faire cette déclaration, a réuni tous les éléments, en fait, pour nous dire aujourd'hui que la RDC, effectivement, perd 15 milliards de dollars par année. Donc, il est conséquent de sa déclaration. Donc, il a fait une étude et il a des preuves pour dire aux Congolais aujourd'hui que 15 milliards de dollars échappent au ministère public. Alors, sur base de cette déclaration, de ces éléments, de cette étude, il connaît aussi qui sont en train de frauder. Il n'a pas à déclarer seulement ou à penser arrêter les auteurs. Il passe directement, il doit demander à la justice de passer à l'action, à l'arrestation. Ils ne doivent pas constater et penser arrêter les gens, non. Ils doivent arrêter et passer à l'action. Je regrette qu'ils viennent pour nous dire que nous pensons arrêter, ou soit ils proposent arrêter les auteurs. Parce qu'en disant que les 15 milliards sortent du trésor public, échappent au trésor public, il a les données.
Oui, donc si je comprends bien, Serge, ça ferait 15 milliards, il faut de vous demander au conseiller spécial du chef de l'État de ne pas, parler dans les vides, comme il a des données et aussi des preuves de ces doutes de détournement et aussi de cette fraude fiscale, que ces personnes qui sont clairement identifiées soient directement arrêtées.
J.R., c'est le conseiller spécial du chef de l'État. Donc, il voit le chef de l'État à tout moment. Il est le conseiller, je ne sais pas si nous sommes dans quelle république, il est le conseiller du chef de l'État, le garant de la nation. Il entre dans le bureau du chef de l'État pour lui dire, voici, la RDC est en train de perdre 15 milliards de dollars par année et voici les tuyaux, voici les canaux par lesquels cet argent échappe au secteur public. C'est le chef, il est le conseiller du chef de l'État, s'il vous plaît, JR. Ou soit nous sommes en train de blaguer avec la nation.
Donc le problème pour vous ne se poserait pas. Mais ce qui étonne, Serge, c'est vrai, tout le monde reconnaît cet état des lieux, la situation que prévaut dans l'économie congolaise. Nous avons suivi dans le gouvernement Matata 1, ce gouvernement a reconnu ce qu'il a appelé le coulage. Le chef de l'État, en 2013, si ma mémoire est très bonne, lors de la conférence économique à Lubumbashi, a également évoqué ces problèmes qui gangrènent l'économie congolaise. Et aujourd'hui, c'est le tour du conseiller spécial du chef de l'État l'État, qui, en fait, donne des chiffres qui étonnent plus d'un, qui vient quand même appuyer aussi les chiffres avancés par certains analystes économiques. Mais alors, comment on a loin de trouver une solution par rapport à ces problèmes?
J'ai une fois arrêté le clientélisme. Il faut aller arrêter le clientélisme, il faut arrêter le népotisme. Quand on est en train de nommer des gens pour remplir les mandats publics, il ne faut pas que ce soit mon frère, ma sœur ou quelqu'un de mon parti politique, parce qu'à ce moment-là, ce monsieur se prend comme quelqu'un qui ne saura pas punir.
Si
on veut voir, c'est mon frère, le népotisme règne, le clientélisme règne, et à ce moment-là, l'intérêt de la nation n'est pas visé. Les gens agissent parce qu'ils savent qu'ils ont des chapeaux, ils ont des couvertures, ils ont de gens qui vont les protéger. Et à ce moment-là, nous assistons à l'impuissance, voire même du président de la République, voire même des institutions de la République, qui ne peuvent pas sanctionner un individu, s'il vous plaît.
Voilà, merci beaucoup. Je comprends bien, votre inquiétude réside sur, si vous me passez les termes, les impunitants. Ils sont tellement nombreux, ils pèsent lourd, ce qui
voilà.
Fait
quoi. Voilà, c'est les partis politiques voilà. Qui gouvernent le pays.
Tout à fait.
Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est au nom de ces partis-là, ils sont couverts.
Merci
beaucoup. Nous voyons même des ministres qui commettent des erreurs. Mais comme il est ministre de la majorité ou il est petit frère à telle autorité, nous voyons la justice changer de position.
Merci
et
beaucoup.
À ce moment-là, la nation ne pourra pas avancer, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Serge, d'avoir appelé de Kinshasa et surtout d'avoir contribué dans ce débat et cet échange citoyen. Gauthier, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles. Je vais commencer par rire. Posez-moi la question de Béziers, pourquoi j'ai ri?
Non, la question a été déjà posée. Que pensez-vous de ce qu'a dit le conseiller du chef de l'État? Donc, vous avez déjà la question et j'imagine, si vous avez accepté d'intervenir, c'est que vous avez déjà la réponse.
Oui, 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 justement. Je voudrais, Béziers, qu'on arrête de déranger les pauvres magistrats. On arrête de déranger les pauvres procureurs. Arrêtez qui? Équipe, article. Parce que, monsieur Gilles, ce que le conseil du chef de l'État est en train de faire, hein, c'est l'histoire du crocodile. Le crocodile, il sort de l'eau, il voit l'antilope, il demande l'antilope où se trouve la rivière. L'antilope le regarde et dit, monsieur, c'est à moi de demander où se trouve la rivière.
Mm-hmm.
Mais ces gens-là savent où vaut l'argent. Monsieur Gilles, je vais vous rappeler le scandale qui s'est passé au Congo-Brazzaville, l'argent de la SNEL. C'était dit, même aux médias de la RFI, c'est une grande autorité politique, il est à Kinshasa là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait de lui, monsieur Gilles? On cesse de déranger les pauvres Congolais qui circulent jour et nuit à train de chercher la chicoine. Ça, c'est une distraction.
Oui, 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 mais Gauthier,
je vais vous donner un exemple. Ici, à Kisangani de CGS, la TGI a confisqué les véhicules d'une entreprise qui n'avait pas payé les impôts. Mais les téléphones sont venus de Kinshasa pour libérer ces véhicules-là, de CGS. Laissez les gens tranquilles, tous ces pauvres procureurs, les procureurs vont arrêter qui?
Non, parce que la justice, en fait, la loi...
Non, mais on va lui dire, monsieur, si tu continues là-bas, on va te déplacer. C'est pour le procureur, qu'est-ce qu'il va faire?
Gauthier, merci beaucoup, parce que la loi donne quand même ses prérogatives au procureur de se saisir, même d'une simple rumeur, de pouvoir, en fait, engager une procédure judiciaire par rapport à une question. Donc, je crois que nous nous intéressons seulement à la loi. Nous ne pouvons qu'en fait faire des débats autour de la loi, parce que c'est aussi un débat scientifique. Gauthier.
Oui, donnez-moi la solution de celle-ci.
Oui.
Je suis chrétien. Que tous les Congolais se mettent à genoux. Priez pour que le système actuel change. Partout, même en Afrique du Sud, même dans tous les pays, il y a toujours. C'est comme un pneu qui tourne. Un jour, le système va changer.
Merci.
On est les gens qui auront pitié du Congolais.
Merci beaucoup, Gauthier, d'avoir appelé de Kisangani et surtout d'avoir évoqué le cas de la DGI qui s'est saisie donc de certains véhicules d'une entreprise qui devait à cette régie financière. Et les cas sont légion. Et d'ailleurs, même à l'entrée de ce studio, on nous parlait d'un cas au niveau de la DGDA où effectivement il y a un entrepreneur qui doit beaucoup d'argent en tout cas à la DGDA. Mais aujourd'hui, ces mêmes entrepreneurs en fait à sa tête, mais le gouvernement vient de lui donner encore d'autres avantages et d'autres marchés pour en fait travailler dans le cadre de développement. Ce qui est dommage pour certains auditeurs qui nous ont écrit. Merci beaucoup Félicien, vous êtes à Kinshasa, vous gardez la ligne, mais nous vous rappelons, chers auditeurs, vous qui nous rejoignez, que nous parlons de ce point qu'a fait le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, Luzolo Lobambi, qui dit que la RDC enregistre chaque année une fraude fiscale et des détournements évalué à 15 milliards de dollars américains. Si vous voulez réagir, composez les 081-890-63-15 pour votre intervention en direct.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiookapi.net. Envoyez vos chansons, après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiookapi.net. Allez-y, on vous attend.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, c'est cadre d'échange citoyen. Nous avons notre invité qui est toujours en ligne, Maître Zikombouzi. Vous êtes chargé des programmes à la LICOCO, j'en ai parlé, la Ligue Congolaise de lutte contre la corruption. Vous venez de suivre cette série des auditeurs. Comment vous réagissez, Maître Ziko?
J'estime que les réactions de nos auditeurs sont fondées parce que déjà l'intervenant de Matadi a relevé le fait que souvent nous prenons le problème de la lutte en aval alors qu'un travail doit aussi être fait en avant, en amont. Et aussi il y a cet aspect qui venait d'être relevé par notre
auditeur
Serge de
Kinshasa,
qui a estimé que le conseiller spécial a un dossier déjà ficelé et que il n'y a pas lieu de faire des discours, il faudrait nécessairement passer à l'acte. Parce que j'estime aussi que quand le conseiller spécial fait une déclaration pareille, c'est qu'il a des données sur lesquelles il se base pour pouvoir faire ses allégations. Et il est temps de pouvoir passer à l'acte. Et je pense aussi que la question de la volonté politique est importante à poser, parce que comme l'a relevé l'auditeur de Kisangani, c'est vrai, il y a des injonctions qui sont parfois données aux magistrats, il y a cet aspect de l'indépendance du pouvoir judiciaire qui n'est pas totalement assuré, et je pense que c'est un travail doit être fait aussi à ce niveau-là, de façon à ce que le magistrat soit libre de faire pleinement leur travail.
Voilà. Alors donc, il y a un auditeur qui a évoqué d'ailleurs l'état des lieux qui est connu, hein, et qui a été évoqué par plusieurs personnalités politiques et également certains analystes économiques. Nous avons dit tout à l'heure, il y a le gouvernement Matata qui a reconnu cet état des choses en évoquant le coulage. Il y a le chef de l'État, si ma mémoire est très bonne, en 2013, qui parlait lors de la conférence économique également de ces problèmes qui gangrène l'économie congolaise. Alors aujourd'hui, c'est le tour de Luzolo. On sent que plus les années passent, plus le gouvernement est inefficace pour résoudre ces problèmes parce qu'il fait face à plusieurs contraintes.
En fait, je ne sais pas à ce niveau s'il faudrait que l'on parle de l'inefficacité ou du manque de volonté de la part de ceux qui dirigent à résoudre ces problèmes. Mais j'estime que ce ne sont pas des rapports qui manquent. Il y a des rapports qui sont faits en interne. Il y a le rapport du panel des Nations Unies sur le biais des ressources naturelles. Tous ces aspects-là doivent être pris en compte. Il y a des gens qui doivent être poursuivis parce que le rapport du panel a cité énormément de gens et des gens qui devraient normalement faire preuve, disons, subir de procédures judiciaires, mais ces rapports sont restés lettre morte. Et tous ces différents rapports qui ont été rédigés en interne, vous les évoquez, qui sont restés comme ça, lettre morte, et rien n'a été fait. On a une nouvelle déclaration sur le 15 milliards, et on se demande est-ce qu'on s'arrêtera à cette déclaration ou cette fois-ci on passera effectivement à l'acte, notamment en traduisant en justice tous ceux qui sont cités dans ces différents rapports.
Merci beaucoup. Maître Zico, nous vous gardons encore en ligne. Le temps devrait passer à nouveau de l'autre côté du standard avec Félicien qui est à Kinshasa et Harry Senga dans la même ville province de Kinshasa. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
C'est plutôt JR Lungembo qui est à l'antenne.
JR, excusez-moi.
Allez-y, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je me dis que c'est déjà entendu. Il n'y a rien de neuf dans tout ce qui est le conseiller spécial ou je ne sais pas, contre la lutte et je ne sais pas
quoi. Oui, Félicien, c'est les chiffres livrés à la population officiellement, c'est la première fois que vous êtes au courant de ce chiffre de 15 milliards, parce que là au moins on vient de citer. Nous avons suivi pratiquement l'évolution économique dans notre pays et plusieurs interventions des analystes et aussi des politiques, mais nulle part des gens ont pris ce courage de dire exactement avec des données chiffrées de quoi il s'agissait. Donc aujourd'hui on ne peut que dire c'est quand même osé, 15 milliards, mais c'est énorme parce que l'inquiétude repose sur ça. Donc 15 milliards, ça pouvait quand même booster les budgets du gouvernement central.
Oui, mais j'ai dit que c'est déjà entendu. Il y a déjà la commission de lutte contre la corruption qui existe et la justice dans notre pays existe toujours. Et nous ne sommes pas une république qui vient de naître, nous sommes là plus de 50 ans. C'est pas parce qu'il s'appelle le Zolo et qu'il va changer quelque chose. D'abord, d'où a-t-il tiré ces chiffres de 15 milliards? Et quand on vote le budget de 5 milliards et on sable le champagne pour ça, je ne sais qui, lui il était ministre et il a été aux affaires aussi depuis longtemps. Il ne savait pas, ces chiffres n'existent pas depuis toujours. Quand on sait que les voisins ont des budgets de 50 milliards, et nous on sable le champagne quand on a atteint le budget de 5 milliards. Mais ils ont tous ces chiffres-là, des pillages et tout ça. Et moi je vous dis que c'est même pas 15 milliards, ça peut être même plus que ça, parce que quand on voit tout ce qui se passe dans des provinces où il y a des minerais et tout ça, l'exploitation minière, les pillages des ressources, on ne peut pas parler de 15 milliards. Et puis en plus, qui va-t-il arrêter lui? Est-ce qu'il va arrêter les opérateurs économiques étrangers? Mais ils sont tous couverts par ceux qui sont comme lui. Est-ce qu'il peut inquiéter quelqu'un qui est aux affaires dans ce pays? Non. Moi, je pense que c'est déjà entendu. Nous avons entendu ça sous la Deuxième République. Et on a pris des décisions, puis les années ne sera comme avant, mais rien n'a changé jusqu'aujourd'hui. Et même sous la Troisième République, nous avons déjà entendu ça, tant que nous ne changeons pas de système de gestion de la chose publique, nous ne pouvons rien changer avec tout ce qu'on s'est dit. Mais M. Luzolo sera là, il partira de là, il ne changera rien dans ce pays. Nous devons nous battre pour changer les choses vraiment à la source. Et on sait bien que le poisson commence à pourrir par la tête. Vous avez l'exemple, par exemple, quand Mobutu est arrivé en fait, à la tête de ce pays, il a trouvé des gens internes qui ont géré le pays, il a trouvé que tout était en ordre, il a amené la corruption et nous en sommes là. Mais quand vous comparez avec le Burkina Faso, avec Thomas Sankara, vous savez comment il est arrivé, comment il a changé les mentalités. Donc, laissons les discours, ça, ce sont des mises en scène du théâtre, et allons aux choses sérieuses pour l'intérêt de notre pays, changeons les choses sérieusement pour l'avenir de nos enfants.
Oui, Félicien, avant de nous quitter, permettez-nous quand même de vous relancer juste avec une question. Aujourd'hui, c'est vrai, pour avoir été ministre de la Justice, moi personnellement, j'imagine qu'il est la personne la mieux indiquée pour avoir des chiffres et aussi avoir des informations fiables en ce qui concerne cette fraude fiscale.
mais la justice qui l'a dirigée a changé en quoi aujourd'hui? Cette justice a été arrêtée, qui ont été arrêtés, que les opposants ont été arrêtés, que ceux qui critiquent, ceux qui parlent du mal de la gestion du pays, elles sont arrêtées, quelqu'un qui est en train de payer les ressources. Oui. Non, j'ai quelqu'un a parlé des maisons qui poussent ici, des immeubles qui poussent, des gens qui pillent partout. Qui en a déjà arrêté? Lui, il a été ministre de la Justice. Non. Ce pays ne changera pas avec ces discours-là.
Merci beaucoup.
Vous pensez que M. Géat ne changera jamais avec ces discours.
Merci beaucoup, Félicia, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous restons toujours dans la même ville. Et puis, Henri Senga, vous êtes avec nous. Bonjour, Henri.
Bonjour, bonjour, Géat.
Vous avez la parole,
Henri. Bonjour à la radio et à ses multiples auditeurs.
Vous avez la parole, Henri.
Oui, si je puis contribuer sur ce débat, c'est en essayant d'y ajouter une bonne dose de logique et de réalisme. Je voudrais dire, premièrement, qu'avant d'analyser sur l'impact que les chiffres et tout cela pourraient avoir sur le débat au niveau de l'opinion nationale, je voudrais d'abord comprendre et me rassurer, ça vient de qui, et rafraîchir un tout petit peu la mémoire des Congolais que nous sommes. Il s'agit bien du professeur Luzolo Bambi, ancien ministre de la Justice, et aussi conseiller spécial du chef de l'État. Je me dis, quand il fait une telle déclaration, en avançant des chiffres incendiaires, il vous parle de 15 milliards de dollars américains. Il a été au gouvernement, il sait ce que cela représente. Moi, je crains que les chiffres eux-mêmes ne soient irréalistes à partir du moment où je me dis ça fait presque deux fois le budget national de la SDC. Or, avec tout ce qu'on nous a raconté là autour de la fraude fiscale, je ne suis pas expert en fiscalité ou en budget finance, mais je me dis, avec tous les efforts qui ont été fournis à gauche, à droite et tout ça là, si le gouvernement n'arrive qu'à réaliser à peine 9 milliards de dollars pour faire fonctionner sa machine, je me dis, la fraude pouvait être logiquement en baisse. Bon, maintenant, je me dis ceci. Quel intérêt un professeur d'université, de surcroît professeur de droit, ancien ministre de la Justice, aurait-il à se lancer dans une telle entreprise? Je me dis, il faut connaître la personne, premièrement. Le professeur Luzolo, c'est les gens qui aiment travailler avec les médias, qui aiment, excusez-moi, je pense que ça frise le matuvisme et tout ça là. Il est conseiller. Son rôle, c'est plus un rôle consultatif. S'il avait toutes ces données et que son intention était d'aider son chef, d'aider son exécutif à pouvoir redresser les choses, ce n'est pas lui qui devait annoncer cela dans la presse. C'est pour ça que je le dis. Est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de dire au chef, écoutez, là où vous m'avez flanqué, je ne me retrouve pas, les gens ne me voient pas, je ne suis plus le prof Luzolo qui était la vedette chaque jeudi ou quoi là, avec les portes ouvertes, avec les annonces incendiaires, des coulons en cravate en prison. Alors, je dis, peut-être c'est une façon pour lui de s'attirer une certaine attention en disant, bon, investissez aussi dans mon secteur parce que je suis en train de travailler sur quelque chose de très important. Et c'est soit, et par rapport à cela, d'abord, je pouvais dire, si moi j'étais de la majorité ou du gouvernement, ou si j'avais une certaine emprise sur lui, moi je l'aurais suspendu au lendemain de ses déclarations.
Voilà, les débats.
Et là, et par rapport maintenant à l'impact que cela pourrait avoir, moi je me dis, mais soyons réalistes, 15 milliards de dollars, c'est que lui, pour avoir livré cette information-là, il détient des données fiables. Alors, c'est quelqu'un qui doit davantage éclairer la nation, qu'il soit quand même, qu'il parvienne à nous dire, parce que les gens qui peuvent entrer dans la fraude fiscale, ce ne sont pas les bandits armés, ou les coulons que vous avez à la cité. Donc, c'est des gens bien identifiés. si c'est des entreprises, si c'est des fonctionnaires de l'État, donc c'est des gens bien identifiés. Alors je me dis, recadrons le débat. Mmh. Il y a 15 milliards de dollars qui échappent à l'État, alors que l'État a besoin de cet argent-là pour son fonctionnement, pour assurer son fonctionnement. Alors je me dis, qu'on nous ajoute d'abord d'autres éléments. Sinon, ça risque d'être, comme je l'ai dit, comme quelqu'un qui vient, qui lance un débat comme ça, là, pour distraire l'opinion, déjà que les gens sont concentrés sur d'autres sujets beaucoup plus importants, tels que les élections et tout ça. Mm-hmm. Donc, je me dis, c'est pour moi, il faut faire très, très attention, parce que je me dis, 15 milliards de dollars, réfléchissons un moment.
Alors, Henri Senga, vous êtes aussi acteur politique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut déjà penser à un mécanisme efficace pour arriver, si pas à éliminer la corruption totalement, mais à la réduire sensiblement. On passera par quoi, éventuellement, essentiellement?
Il faut changer de système. C'est pour ça que moi, je soutiens. Je soutiens l'auditeur qui m'a précédé, qui a parlé à partir de Kisangani. Il faut changer de système. Parce que c'est le même système. Hier, il était ministre de la Justice, il ne vous a pas arrêté. Les détourneurs, les fraudeurs, fraudeurs et tout ça là. Donc, c'est maintenant qu'il est conseiller spécial du chef de l'État sans pouvoir quelconque.
Bon, il peut prétendre
résoudre. Je veux dire, il faut changer de système.
C'est
les mêmes personnes qui reviennent avec les mêmes idées, ils les tournent à gauche, à droite. Moi, je crois que la solution, c'est de changer de système. Et pour changer de système, nous avons les élections en vue. Nous avons les élections en vue. Qu'on cesse de distraire l'opinion avec certains débats qui risquent de nous écarter de la ligne de l'essentiel. Vous voulez le social, vous voulez l'amélioration des conditions, vous voulez la démocratie, vous voulez la justice équitable, passons par les élections.
Voilà, merci beaucoup.
Nous avons la chance. Ces échéances électorales sont une chance exceptionnelle pour la RDC.
Merci beaucoup, Henri, d'avoir appelé et d'avoir accepté de contribuer dans cette émission, dans cet échange citoyen. Nous restons toujours à Kinshasa avec Omar. Omar, vous êtes avec nous, maître Omar.
Bonjour, JR, et très content de vous retrouver dans les ondes de la Radio Pacifique.
Merci, le plaisir est partagé. En tout cas, rien plaisir pour moi aussi de retrouver les auditeurs que je n'ai pas entendus pendant quelques temps. Voilà, Omar, vous avez la parole.
Merci beaucoup, JR, du verbe par vous m'adjuger. Comme nous l'avons tous dit, je crois, mes prédécesseurs également, la corruption demeure jusque-là le facteur clé qui gangrène notre tissu économique. Et à mon avis, il est vraiment important qu'un conseiller spécial du chef de l'État en ce domaine puisse en parler. Le premier impact de ces propos, c'est que ça doit interpeller tout le monde, gouvernant comme gouverné, et comprendre, j'allais dire, faire comprendre à tous que si on ne prend pas au sérieux ces problèmes, nous passerons de déliquescence à déliquescence. Mais, puisqu'on parle de la corruption qui gangrène depuis très longtemps le paysage socio-économique congolais, il faudra avant d'atterrir avec des pistes de solutions, voir quelles sont les véritables causes tant lointaines qu'immédiates. À mon avis, les causes lointaines de ces phénomènes JR ne sont rien d'autre que 1. La pauvreté. Vous savez, dans un pays où la pauvreté gangrène, il est difficile que les citoyens soient loyaux, soient honnêtes, soient civiques. Aussi longtemps que les agents douaniers sont mal payés, aussi longtemps que les magistrats sont mal payés, ils ne seront pas capables de lutter efficacement contre ces phénomènes. Deuxièmement, il y a comme deuxième cause lointaine le manque de contrôle. Ceux qui sont censés contrôler ceux qui gèrent les régies financières, ceux qui sont censés contrôler ceux qui perçoivent les impôts et les taxes ne les font pas. Soit ils les font, mais avec complaisance et immobilisme. Et quelle est la cause immédiate selon moi? C'est l'impunité gérée. Le rôle de la sanction, c'est de dissuader. Le rôle de la sanction, c'est de punir l'auteur d'une infraction et de dissuader les éventuelles personnes qui pourraient, n'est-ce pas, répéter les mêmes faits. Mais j'ai comme l'impression dans ce pays, on se limite à prendre ou à mettre en place des textes, mais on ne sait pas sanctionner ceux qui les violent. Alors, pour atterrir avec des solutions, parce que nous voulons que la corruption cesse, parce qu'elle gangrène notre système économique. Premièrement, il faut sanctionner GIR. Et ça, c'est la solution immédiate. Il faut apprendre à sanctionner tous les fraudeurs fiscaux, tous les évadés fiscaux, tous ceux qui détournent. On suit longtemps qu'on ne sanctionne pas, rien ne se passera. la lutte contre la corruption ne se limite pas à créer des observatoires, de créer des conseillers spéciaux, de déclarer ou de tenir des propos selon lesquels il y a corruption, mais la vraie lutte passe par la sanction. Et cela est l'attribution principale du pouvoir judiciaire. Le conseiller spécial n'est qu'un conseiller. À mon avis, l'impact de cette nomination ou de son poste par rapport à la lutte de la corruption n'est pas vraiment significatif. Le vrai travail passe par les pouvoirs judiciaires, qui a la mission constitutionnelle de sanctionner et de punir tous ceux qui violent la loi. Il faudra réhabiliter l'appareil judiciaire congolais. Il y a eu des états généraux, nous pensons qu'elles aboutiront à des solutions heureuses. Donc le magistrat qui nous écoute en cet instant doit être conscient que c'est lui qui est le principal moteur de cette lutte. Deuxième solution, qui à mon avis est lointaine, il faudra penser à rémunérer ces magistrats-là. Aussi longtemps qu'il n'est pas bien payé, on peut bien faire des états généraux, on peut bien crier à notre radio préférée, Radio Capi, mais s'il n'est pas bien motivé, il ne fera pas un bon travail. Donc il faudra à la fois sanctionner ceux qui violent la loi fiscale, la loi sur les impôts et autres, mais il faut aussi bien payer les agents de l'État. Parce que nous l'avons toujours dit, nous le répétons, il n'y a pas de vertu ni de civilité sans le minimum de bien-être.
Mais, oui, Omar, mais ce qui étonne Puda, on sait qu'il y a eu beaucoup de projets pour la réforme de la justice. Si nous faisons un pas en arrière, en 2005, disons 2005-2006, avant même que nous allions aux élections, il y a eu le projet que nous avons appelé la Régisco, la restauration de la justice congolaise, qui à un certain moment s'est adonné à construire des cours de tribunaux dans des coins les plus reculés du pays. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le résultat n'est pas toujours positif et qu'il faut toujours reprendre à zéro la réforme.
Oui, vous avez raison, J.R. Et je voudrais citer, puisqu'on parle de lui, le professeur de Zolo, qui m'a enseigné la procédure pénale. Il a toujours dit, la justice est le thermomètre de toute démocratie récente et moderne. Donc ça veut simplement dire, on a eu beaucoup de réformes théoriques, on a l'OSET, on a la tolérance zéro qui a existé lorsqu'il était ministre, on a eu des états généraux, on a eu pas mal, beaucoup d'initiatives. Mais aussi longtemps qu'on ne sait pas mettre en œuvre ce qui a été décidé ou recommandé, on tournera toujours à rond. La lutte contre la corruption ne se limite pas à l'organisation des forums, à des déclarations à la télévision sur l'état de la corruption, ne se limite pas à des réformes, à la mise en place des observatoires. Mais la vraie lutte hier passe par deux choses. Premièrement, apprendre à sanctionner ceux qui détournent l'argent de l'État et ceux qui sont corrompus. Et deuxièmement, bien rémunérer et bien payer ceux qui sont censés lutter contre la corruption. Je pense, à mon avis, ces deux solutions peuvent, tant soit peu, redorer les blasons longtemps ternis de notre fichier économique. Voilà ma réponse à votre question, cher J.R.
Merci beaucoup, Omar, d'avoir appelé de Kinshasa. On va retrouver tout de suite Arsène qui est à Kikwit. Arsène, bonjour.
Bonjour, J.R. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous avez la parole, Arsène.
Merci pour la parole. De mon côté, J.R., je pense que quelque part, je crois que nos autorités, ceux qui nous dirigent, les gouvernants, ils n'ont pas le respect du peuple congolais. Ils n'ont pas vraiment ce respect-là. Il est vraiment incompréhensible qu'un conseiller du chef de l'État puisse faire cette déclaration. On ne gère pas le pays par des déclarations. On gère le pays par des actes qu'on pose. Aujourd'hui, j'allais bien entendre qu'il y a 5, 6, 7, 10 personnes en prison parce qu'ils ont détourné 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, ce n'est pas peu de choses. Vous avez un budget de combien j'ai ? Aujourd'hui, on est en train de... Ça, c'est blaguer avec le peuple congolais. Je crois que, moi, à la place du professeur, je dirais ceci. Monsieur le Président, comme je suis en train de partir, je prends toute mon équipe et je vais avec. Parce que c'est une façon de respecter le peuple congolais. Quand il y a une déclaration comme ça, que le président de la République s'élève, il dit à mon départ, je prends tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui ont géré ce pays et qui sont en train de voler 15 milliards de dollars, qui fait presque le double du budget national, je pars avec eux et je les mets en prison. Voilà. C'est ça que la déclaration qu'il faut sortir. Ce n'est pas venir dire du n'importe quoi, ce n'est pas respecter le peuple congolais.
Merci beaucoup Arsène. 081-890-6315 pour participer à ces débats. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiocapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiocapi.net. Allez-y, on vous attend.
Voilà, ça a beaucoup de passion et beaucoup d'inquiétude, d'appréhension surtout. Vous avez écouté comme nous, Maître Zico, vous êtes notre invité, chargé des programmes à la Licoco. Voilà, comment on peut orienter la préoccupation des uns et des autres?
En fait, la première des choses, c'est que je suis heureux de voir la façon dont ces sujets sont mis à cœur par nos auditeurs. J'ai allé dire lors de mon introduction, c'est que nous devons faire en sorte que cette question de lutte contre la corruption ne soit pas simplement l'affaire de ceux qui se dirigent, mais qu'ils prennent leur sens à nous. Et chacun de nous s'implique de façon à ce que nous obtenions des résultats. C'est vrai que les degrés de responsabilité varient suivant les fonctions que chacun de nous occupe. Mais du moins, chacun de nous doit faire de cette question, de lutte contre la corruption, sa question à lui. Parce que lutter contre la corruption, ce n'est pas simplement le faire pour l'État, mais c'est le faire aussi pour soi-même. Si aujourd'hui l'État pouvait récupérer tout ce qui lui échappe, je crois que nous tous nous bénéficierons, nous goûterons aux retombées de cela. Et je suis content de voir que des pistes se sont proposées par les auditeurs. J'estime, je pourrais les résumer en il est temps d'agir, trêve des discours, trêve des commentaires, il faudrait passer aux actes concrets. Faire des déclarations, c'est bien, mais c'est encore mieux si les actes pouvaient suivre. Je pense que c'est ce qui peut résumer le gros de l'intervention de.
Voilà, il y a un auditeur qui a proposé qu'après avoir publié les chiffres, que les conseillers spéciaux du chef de l'État passent à la vitesse supérieure, c'est-à-dire publier la liste de tous ces détourneurs ou encore des personnes en fait suspectes hein, ou encore concernées par cette fraude fiscale. Ça serait l'idéal pour permettre à ce que, en fait, ça constituera une piste hein, pour ceux qui gèrent la justice de pouvoir travailler avec succès.
En fait, c'est publier le nom des gens, le montant que chacun a détourné, c'est une chose. Mais je pense que ce n'est pas nous, la population. Nous avons une constitution qui veut que ce soit le pouvoir judiciaire qui s'en occupe. Je pense que ces données doivent être mises à la disposition du procureur général de la République avec tous ses services, de façon à ce que les actions de dossiers judiciaires soient ouvertes à l'endroit de tous ceux qui sont cités, tous ceux qui seront, dans les gens qui seront sur la liste de tous ces tourneurs. J'estime que les discours, c'est une chose, mais il faudrait passer à l'acte et qu'il y ait des actes concrets cette fois-ci, qui soient un signal fort et qui permettent de dissuader les éventuelles personnes qui seraient tentées par des actes criminels.
Mais voilà, Maître Zico, ben c'est finalement on fait du sur place parce que aujourd'hui c'est vrai, il y a certains auditeurs qui réclament la publication de cette liste, mais par le passé il y a l'ancien ministre le premier ministre pour ne pas les citer, Monsieur Mayobo avait en son temps déposé une liste et il faisait également état de détournement de tout au plus 10 milliards si notre mémoire est très très bonne. Mais voilà, aujourd'hui la liste a été déposée à la présidence, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement et au niveau de la justice, ben alors, on sent qu'il y avait un silence radio.
En fait, mais on doit se demander c'est quoi la cause de ces silences radio. Qui fait que la justice ne puisse pas fonctionner normalement, que le magistrat ne passe pas leur travail comme il se doit. Il doit y avoir une raison, une cause qui puisse faire en sorte qu'il y ait cet immobilisme que l'on constate. Nous avons eu à le dire ici, le pouvoir judiciaire ne doit pas simplement attendre qu'une liste lui soit soumise, que de personnes lui soient transmises comme cela, mais il peut se saisir d'office. Je dis, il y a des indices qui laissent voir de cas de corruption, de cas de détournement. Quand vous voyez
un fonctionnaire en train de construire un immeuble à 5 niveaux. Je ne suis pas contre des gens qui construisent, j'ai à le dire, mais du moins ça donne une puce à l'oreille pour pouvoir se dire qu'il y a lieu d'investiguer. Pourquoi tout cela n'est pas fait? Ce sont des questions qui restent pendantes, mais il y a cette question de l'indépendance du pouvoir judiciaire qui se pose avec la société.
Voilà, nous allons prendre Maître Trésor qui est à Kinshasa. Maître Trésor, bonjour.
Bonjour, c'est Maître Trésor Nicolas. Je suis très bien.
Voilà, vous avez la parole, Maître Trésor.
Oui, merci. Je crois que l'évolution du débat m'a expliqué beaucoup de mots. Mais le professeur Mizolo Bambi, que j'apprécie à sa juste valeur, aurait tellement voulu confirmer à la face du monde que les détournements bas sont pleins dans ce pays. Moi, je pense que il aurait dû mettre à la disposition de l'opinion la liste des auteurs de détournements qu'on devrait déférer devant la justice. Et d'ailleurs, le déférer devant la justice, c'est un combat de géants, puisque très souvent, l'argent détourné sert à alimenter certains aspects de la justice et on finit par ce que l'on dit, il est difficile de prouver le détournement. Or, rien qu'à partir de la déclaration du patrimoine familial, on saura dénicher les indices tirés de culpabilité dans le chef de tel ou tel ministre pour l'état des membres du gouvernement. Et vous avez cité un rapport de l'ancien ministre Mayobo. Eh bien, si le professeur Luzolo connaîtrait encore ce qu'il a des problèmes pour dresser la liste des gens à mettre devant la justice, moi, je lui proposerais de faire recours au rapport Bakandeja. Bakandeja, c'est son collègue, le professeur des droits à l'Université de Kinshasa. Il le connaît très bien, ces rapports se trouveraient au niveau de l'Assemblée nationale. Il y aurait des noms qui ont été cités dans ces rapports parmi les détourneurs dans ces pays. Mais jusque-là, ça fait des années. Et ces gens-là ne sont pas inquiétés. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont fait la ronde des ministères. Et nous connaissons certains de ces gens-là. Mais si le professeur Luzolo Bambi voudrait vraiment éradiquer la corruption par voie de la justice, qu'il puisse d'abord mettre ces gens-là devant la justice au lieu de faire de telles déclarations qui, jusqu'à preuve du contraire, ne nous éclairent pas. Parce que quand il ne cite pas leur nom, le nom des auteurs, nous avons du mal à l'appuyer dans cette démarche.
Oui, Maître Trésor. Oui, Maître Trésor. Oui, Maître Trésor. Maître Trésor, nous vous gardons en ligne parce que on va rappeler notre numéro pour d'autres auditeurs qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il s'agit bien de 081-890-63-15. Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Maître Trésor, vous êtes encore en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors, vous intervenez avant le flash d'information et vous posez également vos inquiétudes comme vos prédécesseurs. Vous avez insisté sur la justice qui ne fait pas bien son travail, c'est ça?
Oui, c'est ça, parce que je disais que déférer les auteurs des détournements devant la justice, c'est un combat des géants. Vous savez, dans notre pays, il est donc très compliqué de faire condamner un ministre, un gouverneur ou tout haut fonctionnaire de l'État en cas de détournement. Parce que dans ce pays, souvent, tout se bouffe en chaîne. Celui qui détourne a ses parapluies, on l'entend souvent. Il est soutenu par telle autorité hiérarchique ou autorité supérieure. Mais quand on le défère devant la justice, s'il avait détourné 2 millions, il dit, moi j'ai détourné 2 millions, vous prenez 1 million, vous me laissez partir. De tels procès n'aboutissent souvent pas dans notre pays et c'est compliqué. Mais un de mes prédécesseurs a proposé qu'il y ait une forte sensibilisation. La sensibilisation, on en a organisé plusieurs, c'est d'ailleurs au jour le jour. Mais il n'y a pas un résultat escompté. C'est pourquoi moi je pense que éradiquer la corruption dans notre pays, bon, peut-être que c'est un problème de système. Mais le système, on en a connu plusieurs fois dans différentes époques. Il y a une question monumentale qu'on nous a léguée. Qui nous a appris la corruption? Depuis lors jusqu'à présent, on n'a pas encore répondu à cette question. Peut-être que si on avait répondu à cette question, ces gens-là, on les aurait déjà ramenés ici pour qu'ils puissent nous dire comment éradiquer cette corruption qu'ils nous avaient apportée ici. On n'arrive pas à comprendre toutes les techniques mises en place, on ne permet toujours pas d'éradiquer la corruption. C'est pourquoi, moi, j'estime que la démarche du professeur Luzolo je ne la conteste pas, mais je l'observe sous réserve. Parce que j'ai dit fort que nous aboutissions à un résultat escompté.
Voilà, sous réserve, vous prenez cette proposition, Maître Trésor, merci. Maître Alain, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Ah, bonjour, c'est Maître Alain Mouiro, je vous appelle de Bukavu. Bonjour JR et bonjour à notre invité. Je suis très heureux à ce que vous puissiez aborder ce sujet qui porte sur la corruption. Je remercie encore une fois le professeur Nzo Lobambi d'avoir encore suscité ce débat entre nous. Mais ce qu'il faudra signaler, M. Juer, tout d'abord, la corruption qui est une infraction plurale, M. Juer, c'est une infraction qui ne peut en aucun cas être commise par une seule personne. C'est au minimum deux personnes, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une infraction de corruption avec une infraction de corruption est impossible à être réalisée par une seule personne. Il faut deux personnes. Alors, si le ex-ministre Rizolo doit publier la liste de corrompus, il doit aussi publier la liste de corrupteurs, parce qu'il y a deux ou trois personnes qui agissent pour faire que l'infraction-là soit commise. Mais aussi, si vous remarquez très bien, la corruption qui est punie d'ailleurs par notre code pénal à son article 147, si j'ai encore bonne mémoire, est sanctionné d'une peine de 6 mois à 2 ans. Mais aussi, s'il s'agit de fonctionnaires publics, cela constitue une circonstance aggravante de cette infraction, M. Chier. Alors, la corruption, comme vous le savez très bien, la corruption commence un peu comme la gale. Ça commence par un bouton, deux, et ça remonte et ça peut même atteindre tout le corps qui est tout l'appareil étatique. Je dirais même que la corruption, c'est le sida même de l'administration de notre pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter avec la corruption? J'ai écouté d'autres dire qu'il faudra majorer le salaire des gens ou bien le mettre dans des conditions idéales. Je suis vraiment d'avis. Mais cela ne suffit pas, M. Gilles. Parce que nous qui œuvrons auprès du pouvoir judiciaire, nous savons comment ça se passe, M. Gilles. Quelqu'un qui vous donne un traitement, un salaire de 1000 dollars, s'il n'y a pas de mécanisme de surveillance, de contrôle efficace, de sanctions efficaces, c'est monsieur-là qui vous lui donnez un salaire de 1000 dollars, le jour que vous allez majorer son salaire à 3000 dollars, il va aussi majorer son taux de corruption. S'il demandait 100 dollars pour se faire corrompre, l'on s'est touché 1000 dollars, s'il n'y a pas de mécanisme de contrôle et de sanction, il va commencer à demander 300 dollars, 500 dollars, parce qu'il a majoré le taux de corruption par rapport à son taux à son salaire de traitement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place des mécanismes de surveillance, mais aussi que le risque de se faire attraper comme corrupteur soit prévu. Je vais vous donner une petite expérience ici à côté au Rwanda, M. Vier. Ici au Rwanda, il y a ce qu'on appelle l'œil du peuple. Qu'est-ce qu'on fait, JR? On peut prendre des gens dans le public, comme on peut prendre par exemple JR, on peut mettre Alain ici, on nous donne de l'argent, c'est de l'argent de la République. On nous dit, allez sur terrain. On demande par exemple à JR, parle au niveau de l'autorité des médias, c'est ça, passe au ministère de l'information. Leur dit, tu parles, leur dit que tu vas ouvrir une télévision et une radio. Et quand JR arrive là-bas, il introduit son dossier. Et dès qu'on lui demande l'argent, il dit ok, ça va, je vais vous donner de l'argent. Mais pourvu que nous puissions signer des papiers, patati patata, il remplit toutes les formalités et il donne l'argent à la décorruption. Et à M. Vier encore de rentrer là où, auprès des autorités, pour aller dénoncer M. Vier et dire je suis allé là-bas, on m'a demandé ceci, on m'a demandé ceci, et voilà, même le preuve, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre des mécanismes très efficaces. Sans le mécanisme efficace, on n'aura rien, M. Vier. On n'aura rien, même si on m'a donné.
Merci beaucoup Alain. On va prendre Maître Sonville qui est à Lubumbashi. C'est le tout dernier auditeur. Maître Sonville, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Monsieur JR. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Certes, Monsieur JR, c'est bien beau de combattre les antivaleurs qui gangrènent l'économie congolaise et paupérisent la population. Mais cela ne doit pas être une aubaine de citer certaines personnes justement égard aux enjeux électoraux afin de les empêcher de postuler un poste quelconque. Et la question que je me pose, M. Gilles, pourquoi toutes ces initiatives, cette démarche amorcée, seulement est annoncé seulement à la veille des élections. N'y a-t-il pas un agenda caché du pouvoir? J'aimerais ne pas savoir, M. Gilles, si les préoccupations du conseiller chef de l'État, M. Joël Ouandi, auront-elles des effets rétroactifs? Entre temps, vous venez de citer le dossier Bakandeja, vous venez de citer le rapport de Mayobo, et même un monsieur qui occupe un grave poste au niveau du gouvernement par rapport à l'agent de l'FNL. Puisqu'au niveau du gouvernement, M. Gilles, il y a déjà des cas avérés de détournement d'argent, M. Gilles. Alors, l'armée, même au sein de l'armée, la vente des armes, par certains généraux décriés sur certaines chaînes de radio et télévision. Les PDG évoquaient les tours d'organisation financière, sans pour autant qu'ils soient éclairés devant la justice pour répondre de leurs actes. Tous les responsables de régie financière proviennent d'une seule famille politique, M. Gilles. Ils roulent carrosse dans des voitures vicieuses, ils inscrivent leurs enfants dans des écoles qui coûtent trop cher.
Non, mais déjà avec leur salaire, ils peuvent quand même avoir ce confort, c'est sans problème.
Non, M. Gilles, si je le dis là, les cas sont les gens ici à Lumbashi. Nous voyons des gens qui touchent des salaires modiques et qui se paient des factures luxueuses. Ah, si je peux encore continuer, M. Gilles, cela nécessite de.
Oui, rapidement, parce que vous n'avez que 30 secondes.
Qu'est-ce que des policiers, M. Gilles, qui parviennent à nouer les deux bouts du mois avec leur modique sol? Comment est-ce que c'est le tout? Comment est-ce que vous pouvez se mettre en tête que ces policiers peuvent vivre dans ces conditions-là? Qu'est-ce qu'il mettra du magistrat qui soit appelé à instruire dans ces dossiers qui se construisent des immeubles avec un salaire modique, puisque le magistrat bien gradé les touche au moins 600 dollars? Et si tous ces éléments du sujet à la mauvaise gouvernance affectent la corruption, où est passé le problème des slogans de tolérance zéro, qui n'est resté que simple slogan? Chose curieuse, monsieur Chique, le même initiateur de ce slogan qui revient encore à la charge, à lui conduire à d'autres autres.
Maître Sonville, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir appelé de Lubumbashi. Voilà, nous allons conclure cette émission avec Maître Zico Vouzi, qui est le chargé des programmes à la LICOCO, la Ligue contre la corruption en RDC. Maître Zico, on va conclure avec vous. Nous l'avons dit, le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, a dit que la RDC enregistre chaque année une fraude fiscale et des détournements évalués à 15 milliards de dollars américains. On a suivi les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? Maître Zico? Voilà, Maître Zico n'est plus en ligne. Je crois qu'on a des petits soucis avec sa ligne. Nous allons donc terminer notre émission par là. Donc nous disons d'ailleurs merci à tous les auditeurs qui ont accepté de contribuer dans ces débats autour de la corruption, la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Nous n'oublions pas Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de ce programme qui a été réalisé par Julie Feza Bongunda et Piero Elameji. Un programme qui vous a été présenté et coordonné par J.R. Lungembo. On se retrouve demain.
Allô? Il ne répond pas.